Chère Fatima, je te souhaite un bon anniversaire. Tu vas avoir 8 ans le 14 avril, le même jour que ma fille. Mais ce sera ton dernier anniversaire. Tes parents vont mourir en premier, sous les ruines de ta maison. Ton petit frère aussi. Ainsi, il arrêtera de sauter sur ton lit et de griffonner tes dessins. Toi, tu seras blessée et tu décéderas à l'hôpital de Bagdad. Je sais, tu voulais être chanteuse. C'est vrai que tu avais une jolie voix, mais dis-toi bien que ta mort ne sera pas inutile. En effet, quand ton pays sera bien détruit, la démocratie apportera le bonheur aux générations suivantes. Un nouveau monde, une nouvelle vie, la paix, enfin. L'axe du mal fera définitivement partie du passé. Merci, Fatima, pour ton sacrifice. Roger, de Gironde.
Bon ben, bravo, Daniel. Toutes tes émissions, ça nous rappelle tout un tas de souvenirs à ceux de ma génération, à ceux qui vont bientôt rentrer au port. Alors, ça me rappelle un petit poème d'Aragon. Oh, pour ceux qui ont connu la guerre, qui ont essayé de faire quelque chose, on s'est peut-être trompé, mais enfin, voilà ce qu'il disait. On sourira de nous comme de faux prophètes qui prirent l'horizon pour une immense fête. Allez, salut.
Daniel, à l'aide, je suis Marie-Christine, conseillère d'orientation psychologue. Je suis menacée de disparition, comme tous mes collègues, conseillers d'orientation psychologue de l'éducation nationale. Il est décidé, semble-t-il, grâce au bienfait de la loi sur la décentralisation, de supprimer de l'école les assistantes sociales, les médecins scolaires, les ATOS et les conseillers d'orientation psychologue. À qui parleront les élèves qui souffrent, les élèves qui s'interrogent, les élèves qui voudraient parler à quelqu'un d'autre qu'à un enseignant? Voilà, c'est quand même le message d'un corps en voie de disparition. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte qu'ils assistent à la mort en direct d'une espèce.
Oui, bonjour. Je vous appelle au sujet de la publicité des pages jaunes et des belles-mères. Je trouve ça vraiment très déplacé. Et si toutes les belles-mères arrêtaient d'écouter France Inter, je vous assure, vous auriez une chute d'audience. Hein. Alors faites bien attention quand vous passez des publicités. Elles sont quand même bien utiles, les belles-mères. Merci, au revoir.
Absolument, absolument. Non au racisme anti-belle-mère. C'est absolument dégueulasse de s'en prendre à nos mamans ou aux mères de nos compagnes ou de nos compagnons. C'est une vieille saloperie française qui est absolument dégueulasse. Les babouchkis, par exemple, le pluriel de babouchka, c'est babouchki, c'est ma connaissance en russe s'arrête là. Eh bien, sont en Russie, par exemple, sont respectées. Les dames, les mamans, en mûrissant, sont respectées dans la plupart des pays du monde, sauf en France où depuis, mais alors vraiment, on s'en prend aux belles-mères, aux belles doches, et cette pub est particulièrement infamante, en effet. Voilà, on est remonté aujourd'hui, pour des tas de raisons, c'est que c'est vendredi, c'est pas la seule raison. C'est qu'aujourd'hui, on va rencontrer Rémi. Rémi et son histoire très particulière et son psy très particulier. Je vous en dis pas plus pour l'instant. D'autres messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Oh, mais ce qu'on va entendre n'est pas sans écho avec cette auditrice qui parle de la disparition des psychologues dans les établissements scolaires, vous allez voir. D'autres messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Comment l'horreur stalinienne a-t-elle pu avoir lieu aussi facilement ? S'interroge Daniel Mermet. Questionnement du passé, c'est important. Mais on ne peut plus rien y changer. Comment les plans sociaux peuvent-ils avoir lieu en France en 2003 aussi facilement? Questionnement du présent, c'est très important. Et plus dérangeant pour une émission de radio d'État libéral. Pub, lisez « On en est là » de Jacques-Alain Léger, édition de Noël.
Oui, bonjour, Laurence de Bailly. C'était simplement pour donner une information par rapport à l'émission de ce soir. Il y a une mise en scène, enfin un spectacle, conçu et mise en scène par Laurent Terzieff, qui s'intitule « Les dernières lettres de Stalingrad ». C'est au théâtre Montpensier, à Versailles, voilà, ça peut peut-être être intéressant.
S'informer sur la propagande permet de transformer la propagande en information sur les propagandistes et sur leurs intentions manipulatrices.
En ces périodes de troubles et de questionnements divers, il y a peut-être une solution. Preuve, cette facture de 1873, retrouvée dans les archives paroissiales de Boswil, en Suisse, et consignée depuis dans un livre. Un peintre avait été chargé du rafraîchissement des fresques de la vieille église. Une fois les travaux terminés, le peintre établit la facture suivante. Modifier le septième commandement et laquer les 10 commandements, 3 francs 45. Nettoyer Ponce Pilate, mit une nouvelle fourrure sur son col et polit le personnage de tous les côtés, 2 francs 33. Élargit le ciel et rajoutait quelques nouvelles étoiles. Améliorer le feu de l'enfer et donner au diable un visage raisonnable, 3 francs 86. Modifier Sainte-Madeleine qui était complètement détériorée, 3 francs 16. Nettoyer et repeint ici et là les vierges sages, 1 franc 30. Mieux marquer le chemin du ciel, 55 centimes. Laquer la femme de Potiphar et ôter la crasse de son cou, 1 franc 32. Nettoyer la mer rouge des excréments de mouches qui la recouvraient, 2 francs 02. Et enfin, reculer la fin du monde, vu qu'elle était beaucoup trop proche, 4 ans 88. C'était Pierre-Marie des Côtes d'Armor. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Cléotère. Là-bas, si j'y suis, Rémi et son psy, allié, aliéné.
Flight number 2, arriving from...
De temps en temps, il y a les pigeons qui viennent se poser sur le rebord de la fenêtre.
Vous leur mettez un peu de pain ?
Oh oui, je leur mets du pain, même un peu d'eau, quelquefois.
Parfois, ça vous arrive d'envisager un jour de vous marier, d'avoir des enfants ?
Ah oui, oui, ça me taraude pas mal, même. Enfin, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Comme m'avait dit un médecin une fois, il m'avait dit... heureux que ça existe l'amour, hein, que c'est possible entre malades mentaux. J'avais posé la question tout à trac. Est-ce que l'amour est possible entre psychiatrisés? Il m'avait dit bien sûr, mais à condition d'avoir du courage pour deux. Bon, j'ai déjà à peine de courage pour moi-même. Alors peut-être arrivera-t-il un moment où j'en aurai, pour deux, pour trois, pour quatre, mais j'en suis pas là, très humblement, j'en suis pas là. Et c'est vrai.
Et cette maladie, c'est une compagne pour la vie ?
Oui, c'est une compagne pour la vie. Il faut en faire une offrande. Vous offrez vos imperfections, vos lâchetés, puis même vos états intérieurs qui vous tirent tellement vers le bas, quoi. C'est une rigolade pour personne. L'important, c'est quand même, moi je dirais, c'est de se sentir aimé de Dieu. Parce que des hommes, c'est difficile. Il y avait un médecin qui avait dit la maladie mentale, c'est comme un cachot. Bon, le cachot, c'est déjà différent de la prison. Le cachot, c'est le mitard, c'est le trou noir à l'intérieur d'une prison. Mais il avait dit, c'est comme un cachot dans lequel vous vous êtes enfermé et dont vous avez perdu la clé. C'est-à-dire que vous êtes dans les ténèbres épaisses. Et vous savez qu'il n'y a pas une main qui va se tendre. C'est le désespoir absolu, si vous voulez. Savoir que, finalement, tous les saints personnages ont connu ça, ont connu ça. Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné, hein, comme dit l'autre. Quand même, ça vous fait vous dépasser. Je crois que le bonheur n'est pas possible, mais je crois qu'on peut se dépasser. Notre dignité est à ce prix, quoi.
Par jour, ces mots aboient, comme des petits roquets, des petits chiens de garde. De garde-fou. Garde-fou. Dans une garde-fou, tout est normal, à part le train qui ne vient jamais et que d'ailleurs personne n'attend. Depuis la nuit des temps, ils sont, dans la nuit des temps, demeurés dans cette nuit. La folie, tantôt trouble, fascine, enchante, subversie. Et alors, c'est l'éloge de la folie. Et puis, la folie, tantôt effraie, et c'est le rejet, c'est l'hospice, c'est l'enfermement, la camisole tout court, ou la camisole chimique, c'est le ghetto psychiatrique. C'est la destruction industrielle des malades mentaux organisés par les nazis. C'est les 40 000 malades mentaux français qui moururent de faim durant la Deuxième Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Un dossier oublié, relégué. La folie, cependant, à chaque instant, nous guette. Normal. Normal. Normal, c'est normal, ben c'est bien normal. Voilà encore un mot prononcé 1000 fois dans la journée. Et s'il y a un normal, c'est qu'il y a anormal. Et entre le normal et l'anormal, la lisière n'est pas très claire. Et c'est sur cette ligne, ligne de front, que nous allons aujourd'hui avec Claire Auter, avec Rémi et son psy. Pas très clair, la frontière. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 450 millions d'êtres humains, à l'heure où je vous parle, souffrent de troubles mentaux. En France, aujourd'hui, 800 000 personnes sont suivies pour des ordres mentaux dans des établissements publics. 80 000 sont hospitalisés et n'oubliez jamais que nous sommes, nous autres les Français, les hexagonaux, les champions du monde de consommation de psychotropes. La folie s'est connue et rusée. La folie se déguise. La folie n'a pas l'air d'être folle. Prenez simplement la rue. Oui, la rue à Paris. À Paris. Sur les 30 000 personnes présumées sans abri, eh bien, 10 000 seraient des malades mentaux chroniques. 10 000. 10 000 dans cette ville d'où je vous parle. 10 000 sans prise en charge et sans traitement. Le vin constituant le neuroleptique de la rue, selon les psychiatres. Alors voilà où nous allons aujourd'hui, dans cette lisière, à cette frontière entre le normal et le pas normal. Bien évidemment, on le sait depuis longtemps, la folie présente tout un grand bouquet de fleurs folles de différentes couleurs, de différentes formes. Entre l'éloge de la folie et le rejet de la folie, on oublie le fou, car c'est le fou qui porte la folie. Et le fou souffre. On l'avait oublié, on a découvert peu à peu la souffrance du fou. Et on a pris en compte, de plus en plus, on prend en compte cette souffrance-là, jusqu'à ce que, tout simplement, on essaye que la vie soit vivable pour cette douleur-là, pour cette souffrance-là. Depuis longtemps, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, comme cette psychologue scolaire, s'évertuent à ce que la vie soit possible, non pas nécessairement normale, pour ceux qui sont, comme on disait il y a guère de temps, aliénés. Et c'est le cas aujourd'hui de Rémi et de son psy, qui est un psy un peu particulier, puisque c'est un psy mobile. Et c'est dans la basse j'y suis, jusqu'à 18h sur France Inter.
Sur la porte.
Oui, grâce à vous, je les retrouve.
Vous les cherchiez?
Oui, comme ça. Parce que j'avais l'intention d'aller à votre rencontre. Ah, et ben, vous m'avez gentil. Précédé. Vous pouvez rentrer. Vos appareils allumés, là. Alors, on va se mettre à côté.
Avant que ce que vous me disiez, ouais. On peut très bien circuler chez vous.
Bon, ben, je vous avais prévenu, je vous avais demandé de faire le plus abstraction possible du décor. C'est un peu chaotique. Ça correspond à mes états intérieurs. Ça va pas très bien, quoi. Quand je suis un peu secoué.
Vous m'avez dit hier au téléphone que vous avez fait un tas de ménage avant de le recevoir.
J'ai fait un peu de ménage. Je me suis un peu donné de peine, voilà, tout simplement.
Je vois votre évier, il n'y a pas moyen de faire la cuisine ici, en tout cas. Hein.
Non, 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 non. Les plaques sont en dessous.
C'est recouvert de papier, de... Il y en a partout.
Vous faites le tour du propriétaire. Oui, si vous voulez.
La cuisine, en fait, c'est l'entrée.
Voilà.
Là, je vois des livres en russe, non?
Oui.
Ce sont des textes de chansons?
C'est des textes de chansons, exactement. Comme chanteur, je n'écoute que Vysotsky. Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné une Bible en russe. Rajitsva. Ou Sitsa Krista, Dva. Je pense que c'est sur la nativité. C'est tiré de l'évangile de Luc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer?
C'est une peluche d'enfant, ça?
C'est une peluche que j'ai trouvée. Je suis tombé sur ce lapin. J'ai pas eu le courage de shooter dedans. Je l'ai pris pour moi. Je l'ai un petit peu épousté. Et puis maintenant, on se tient compagnie. Ça me fait quelqu'un à qui parler.
Ouais. Vous avez quel âge, Rémi?
J'ai 42 ans. Alors là, vous avez une plume de faisan. Et alors là, je la mets au-dessus de ma peau de chagrin.
Une peau de chèvre? Ouais. Une petite peau de chèvre?
Ouais. C'est un autre moi-même. Elle est aussi vieille que moi. Son état un peu délabré et rugueux, c'est à peu près mon état à moi. Si je veux vivre le nombre d'années qui me reste à vivre, eh bien, il faut que je m'en occupe aussi. Ça a basculé vers l'âge de 19-20 ans. J'ai eu un épisode d'angoisse très profonde. Mon mal intérieur, mes interrogations, mes malaises allaient si loin que je pleurais tout le temps. J'étais complètement parti, complètement dissocié. Vous vous considérez comme étranger à vous-même, alors là c'est le comble. Et alors... j'ai accepté de prendre des traitements, des régulateurs de comportement. J'en suis devenu dépendant. Je suis devenu à ce moment-là un malade mental, parfois stabilisé, parfois non stabilisé. Un malade mental, oui. C'est vrai. Si vous voulez, les traitements, ils vous calment vraiment. Ils vous font dormir et ils vous calment. Seulement, c'est le phénomène de la camisole chimique. Vous êtes dans un cocon. Partout où vous alliez, vous vous baladez avec votre cocon. C'est un peu comme si vous êtes dans l'eau. C'est un autre élément. Ben voilà, vous êtes dans un autre élément qui vous enveloppe complètement en permanence. Alors vous souffrez pas. Vous êtes comme insensibilisé. Mais la vie de l'esprit très vite se détériore. Finit par ne plus ressembler à rien du tout. Vous devenez un légume, plus ou moins. Non, la camisole chimique, elle est réelle. Elle est réelle. Enfin, j'ai ça en commun avec... tous ceux qui sont passés par les fourches codines, la psychiatrie, quoi.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils vont au fond. Il n'y avait pas eu de médecin. Il n'y aurait jamais eu de malade, car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Et il y a dans l'électrochoc, un état flaque par lequel passe tout traumatisé. Et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de méthode incapables de retrouver leur moi.
Superbe subversion et puissance d'Antonin Artaud, qu'on entend parler le 16 juillet 1946, deux ans avant sa mort, lui qui eut affaire à ces furieux médecins hygiénistes, médecins aliénistes, dans un duel terrible entre cette folie, entre guillemets, qui le gagnait, ceux qui entendaient la prendre en charge, la dominer, le dominer. Ce fut une lutte terrible. Et évidemment, c'est quelqu'un à qui Rémi, chez qui nous nous trouvons avec Claire, serait faire bien évidemment. Alors on est là, vous voyez, c'est pas la folie des imageries d'autrefois avec l'entonnoir sur la tête et les gars qui se prennent pour Napoléon, qui traînent au bout d'une laisse, une brosse à dents en disant mais c'est mon chien. C'est des choses qu'on se racontait quand on était gosse. Mais ça, c'est après tout, c'est l'enchantement. C'est ce qui vient de nous arriver à l'instant en écoutant Artaud. Quelle force extraordinaire. La folie produit cela en permanence. Mais tout ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien, parce qu'il y a un fou en nous.
Je ressentais les premières atteintes de la folie. Il y a 1000 chemins pour vous rendre à l'hôpital psychiatrique, mais la ligne de frontière, on peut quand même le dire, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand vous perdez toute autonomie. J'ai fait 3 séjours sur 2-3 ans. Un des aspects de la maladie mentale est que le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon. Les médecins, les infirmiers et tout le bastringue, ce sont des blouses blanches qui circulent. Il n'y a pas de visage.
Il n'y a pas de visage.
Non, non. C'est ça l'hôpital. Vous partagez les mêmes lieux que d'autres personnes. Et c'est comme dans la vie, il y a des amitiés qui se nouent, il y a des antipathies, il y a même des types absolument pas recommandables. Le taux de réinsertion et de guérison donc est plus que faible. Mais ce sont des enfants de Dieu, au même titre que vous et moi. Bien sûr, c'est vrai, ils sont insupportables. Il y a guère que dans les hôpitaux qu'on peut les supporter. Mais ils ont le droit de vivre quand même. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas malade au point d'avoir besoin absolument d'être enfermé entre 4 murs. Ce qui m'arrive quand je suis en crise. Mais bon, ça n'arrive plus depuis un certain temps quand même. Au cours de mes hospitalisations, j'ai vu un très large panel de troubles mentaux, mais évidemment, c'est le tabou complet, jamais on ne parle de ça. C'est comme en Sicile, on ne parle jamais de la mafia. Et ben, dans les hôpitaux psychiatriques, on ne parle jamais de soi, quoi. Il y a des gens qui délirent, voilà. J'ai été accueilli pendant 2-3 ans au cri de « Bonjour le prince Karabi ». Louis XVI est tombé dans la cheminée. Comment va Marie-Antoinette ? Il m'est arrivé de me prendre pour Arthur Londres, pour Buenaventura Durruti ou Macno, quelquefois.
Alors les hommes dont vous me parlez, là, oui. Ce sont des anarchistes ?
C'est des anarchistes, des révolutionnaires, bien sûr. Ils ont vécu avec force, comme ça, ils ont traversé à toute vitesse leur génération. Il y en a un qui était un anarchiste espagnol, c'était Durruti. Et puis l'autre, c'était un russe, c'était Macno. Je sais pas, moi, je trouvais que ça avait du panache, leur vie. Ils vivaient leurs rêves, on n'a qu'une vie, et il faut lutter. Ben là, ils l'ont fait, si vous voulez. Je vais vous chanter la Macnovchina, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la musique du chant des partisans russes. C'est une chanson anarchiste de mes 20 ans. Là, c'est des paroles sur Macno, la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine,
ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'OTAN, la McNortina les avait jetés au vent. À l'OTAN, la McNortina les avait jetés au vent. McNortina, McNortina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Voilà, je sentais deux couplets. Oui, je m'identifiais. Ça dénote une difficulté à rentrer dans la réalité, j'en suis tout à fait conscient. L'identification est allée assez loin. Moi, je me suis vraiment senti anarchiste. L'État, j'estimais que c'était... Moins il y en a, mieux les individus se portent. Ça, c'est, voilà, c'est ça par exemple, c'est une photocopie couleur que j'avais faite. Ça a pendant assez longtemps accueilli mes visiteurs juste derrière la porte. C'est la pyramide sociale, voilà, du système capitaliste. Le capital juché tout en haut de la colonne. Ensuite, vous avez l'étage suivant, les prêtres, les canons et les soldats. Les horribles, voilà, les bourgeois qui pensent qu'à faire bombance.
Ils sont établis autour d'une
voilà.
Table.
Et puis la classe des travailleurs tout en bas qui supporte le tout. Vous pouvez pas vivre au milieu de la société où nous sommes tous sans avoir de profondes envies de meurtre qui sont saines en elles-mêmes.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier. Ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oreste mono, t'en dirai, Isa, Akali, Toparerakoko. Là, l'homme s'est retiré, et il a fui.
Le 2 février 1948, l'émission d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, programmée sur la chaîne parisienne, est interdite.
Alors un extrait de cette longue œuvre d'Antonin Artaud, écrite pour la radio, comme ce speaker vient de l'indiquer, création de 1948, l'année même de la mort d'Antonin Artaud, et cette œuvre qui lui avait été commandée qui s'intitulait Pour en finir avec le jugement de Dieu, a été finalement interdite. Elle n'a pas été diffusée sur les antennes de la radio nationale, en dépit d'une distribution absolument éblouissante avec Maria Cazares, Roger Blin, etc. Et Mais Artaud, c'est le symbole de, sinon du procès, en tout cas de la question de la psychiatrie, puisqu'il a passé 9 années de sa vie. Il est mort à 52 ou 53 ans, donc 9 années aux mains, dans les griffes de la psychiatrie. Depuis, et sans doute à cause d'Artaud, mais c'est une des contributions, le regard sur la folie a changé, et dans nos cultures, je précise bien notre culture, parce que il en va différemment des autres cultures dans le monde, le regard a changé, la psychiatrie a changé, et les psychiatres ont changé. Et Rémi, voilà, maintenant vous le connaissez un petit peu, on a fait connaissance, il travaille avec un psy particulier qui s'appelle le psy mobile. Oui, et ben c'est ces psychiatres qui sont sortis de hors les murs, comme on a pu dire, et qui sont allés et bien dans la cité et chez les patients eux-mêmes. Et c'est le cas de Guy, le psy.
Et Guy est justement intervenu dans ma vie pour essayer de me faire comprendre que il y avait autre chose à faire de sa vie que d'attendre la soupe dans un hôpital de jour, que je n'étais pas condamné à cet univers. C'est un thérapeute, justement, lui, un peu franc-tireur. Moi, ça faisait tout à fait mon avantage, parce que, comme disait Vysotsky dans sa chanson « L'ornière », j'étais dans mon ornière, au fond de mon trou, et ça se passait pas si mal. J'étais en train de crever, littéralement, mais enfin, c'était dans l'ordre des choses. Tous, ils finissent par crever dans ces lieux-là. Jusqu'à la fin de mes jours, cette rencontre restera lumineuse, très précieuse. C'est cet homme qui m'a sorti d'affaire, enfin, qui m'a évité de crever, vraiment, sous une overdose de neuroleptiques et avec des débiles mentaux comme compagnons de vie, quoi. C'était à peu près ça auquel je m'étais rendu. Je lui suis infiniment reconnaissant.
Aussi longtemps que l'homme ne pensera pas par lui-même et ne prendra pas les responsabilités lui incombant.
Le plus important en physique, c'est toujours l'organisation et puis surtout laver tous les instruments en parallèle des préparations.
Il n'y aura pas de libération totale de la personne humaine.
Voilà, c'est extrêmement important de ranger tous ces éléments parce que comme ça, vous avez une cuisine dégagée et puis ça ne vous encombre pas ni la vue ni l'esprit.
Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On entend faire la cuisine, on comprend pas très bien. Eh bien, vous allez voir que la cuisine, c'est la thérapie. Et oui, ce psychothérapeute, Guy a trouvé cette idée de faire la cuisine avec Rémi.
Bonjour Rémi.
J'avais amené à votre intention des textes d'Artaud. Artaud, ce qui est génial, c'est que c'était le vrai fou. Lui. Il n'a pas mimé ou imité quoi que ce soit. Il était comme ça. J'ai vraiment l'impression d'y être. Je pense que c'est à des gens qui sont passés par là où je suis passé, c'est d'une clarté lumineuse. Celui qui n'a pas connu l'épisode psychiatrique, à mon avis, il n'y comprend rien. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit, la vie, et de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure, bavent sur moi. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie, et que la vie ne soit pas l'esprit. Je souffre de l'esprit organe, de l'esprit traduction, de l'esprit intimidation des choses, pour les faire entrer dans l'esprit. Et à chaque page, vous avez une souffrance indicible qui est transformée en glaçon, c'est-à-dire ça fond, ça ne fait que fondre. Dès qu'on essaye de trouver un contour, une forme, ça s'effiloche, mais c'est de la souffrance qui fuse à l'état pur. C'est presque comme une lumière aveuglante. On ne peut pas le lire sans lunettes, sans paravent. Pour ceux qui sont passés par la psychiatrie, je crois que c'est très parlant, c'est même réconfortant de voir que on en a fait quelque chose, que quelqu'un parmi nous, et j'ai envie de dire, parmi les malades mentaux, a réussi comme ça à extérioriser à ce point. Mais c'est du vitriol. Le vitriol, on peut pas en faire grand chose dans la vie, à part de brûler, de combattre. C'est vrai, c'est des poèmes vitriol, des poèmes grenades.
Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Une route s'offrait à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde.
Le 2 février 1948, l'émission d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, programmée sur la chaîne parisienne, est interdite.
Évidemment, Dieu, c'est de la merde. Signé Antonin Artaud, on comprend que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles cette œuvre ne fut pas diffusée. Mais le génie radiophonique de l'époque voulait qu'on commandât à des auteurs de cette dimension, de cette taille, des œuvres pour la radio. Éloge de la folie, évidemment. C'est ce que dit Rémi, on en a fait quelque chose, il y a l'un de nous qui a réussi à en faire quelque chose, même si c'est du vitriol, même si c'est des grenades, même si c'est si difficilement utilisable. Éloge de la folie, imaginons ce monde sans folie, on n'imagine rien du tout, sans la folie et sans la souffrance des fous, entre guillemets, ce monde tout simplement n'existerait pas. Et c'est ça dont il est question, c'est ce normal dans le fou, et Rémi parle tout à fait normalement, et puis c'est cette folie en nous que nous faisons résonner aujourd'hui.
Disons que vous vous sentez étranger au monde, étranger à vous-même, et étranger au monde, de plus en plus. D'abord, ce sont comme des rafales, pas de vent, mais des rafales d'interrogation qui vous arrivent. Et puis quand vous essayez de vous en exprimer autour de vous, les gens s'éloignent de vous, et puis ça continue, ça n'a d'ailleurs pas de fin.
Comment vous vous en sortez là depuis toutes ces années? Est-ce que d'abord la psychiatrie a posé un diagnostic sur votre parcours, et aujourd'hui, comment vous en sortez?
Alors le diagnostic, dans le détail, je ne le connais pas. Je suppose que c'est une variation, une fugue, comme en musique, que prend la schizophrénie. Je pense que c'est ça. Ça fait partie du secret, enfin oui, je crois, du secret. Ça peut être communiqué à votre entourage, si vous en avez, à votre mort. Vous n'êtes pas tenu informé, en termes médicaux, s'entend, de ce que les médecins ont décelé, parce que les médecins eux-mêmes, surtout ceux qui sont honnêtes et bons, ont beaucoup de mal à s'engager.
Oui, je crois que là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Souvent, les patients qui sont dans des troubles psychiques importants vont en quelque sorte s'identifier avec cette pathologie, qui va à la fois me rassurer et en même temps m'épouvanter, parce que être à vie paranoïaque, comment vivre avec ça? Je préférerais dire que les patients qui sont plutôt dans le registre de la psychose, comme on dit, sont ce que j'appelle dans des états limites. Et donc avec des possibilités naturellement de récupération, et c'est sur quoi je me fonde en travaillant autrement que dans des rencontres avec les givarots silencieux, quoi.
C'est-à-dire? Les givarots, ce sont les spécialistes. Ils vous réduisent une tête en un temps record, après l'avoir coupée, bien sûr. Et comme en anglais, le psychiatre s'appelle le shrink, le rétrécisseur, dans la profession, on a pris l'habitude de dire givarot pour psychiatre.
Les givarots silencieux, naturellement, voilà. Puisqu'ils sont souvent affublés de la non-parole et du silence, comme si le silence allait aider des patients qui demandent de la parole et qui demandent du lien en permanence et de l'alliance thérapeutique avec leur thérapeute.
Quand vous pouvez mettre des mots sous votre souffrance, c'est important. C'est bien de ne plus prendre de médicaments, c'est bien d'avoir retrouvé ses capacités, mais c'est toujours pareil, il faut faire quelque chose de sa vie. Il faut s'engager.
Est-ce que c'est envisageable pour vous de travailler un jour ou pas du tout?
Je crois que non. J'essaye de faire en sorte que ma vie ait un sens, mais ça ne passe pas par le travail. C'est mon drame d'ailleurs, j'en suis parfaitement conscient, parce que on n'a encore rien trouvé de mieux contre l'angoisse existentielle, c'est vrai. Bon ben, c'est pas possible. J'arrive pas à me discipliner, si vous voulez.
Comment est-ce que vous faites matériellement,
Rémi? Ben, matériellement, j'ai l'allocation adulte handicapé. Ça doit aller chercher dans les 4500 balles. Il faut que je me débrouille. C'est un exercice que ça va parce que je suis aidé par ma famille. Hein. Sinon, je pourrais pas rester là.
Qu'est-ce que vous auriez idéalement aimé faire comme métier?
Révolutionnaire. Ouais, on peut dire que c'est un métier. Révolutionnaire, comprenons-nous. Vous savez, dans une armée, il y a ceux qui taillent la route. Vous voyez? Qui reconnaissent le terrain et qui donnent les informations précieuses, indispensables aux autres. Ben voilà, être un peu une sentinelle, vous voyez? Ouvrir des portes. Vous connaissez la chanson qui ouvrait et qui clôturait les émissions de la CNT pendant la guerre civile? Ça s'appelle Negras Tormentas. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo no se ama el deber, el bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Alors ça, c'était le chant des anarcho-syndicalistes de la CNT. Un paysage orageux obscurcit l'horizon. Ben voilà quoi, c'était les tempêtes à venir, qui étaient même non seulement prévues, mais appelées de tous ses voeux, pour que la bagarre éclate et que la société nouvelle se mette en route.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra es la libertad, hay que defenderla, alta la bandera revolucionaria. Llevan por a las barricadas, barricadas, por el triunfo de la Confederación.
Rémi, comment est-ce qu'on s'arrange avec la sexualité quand on est sous le médicament?
On essaye de mettre à profit les moments de répit, quand la maladie vous laisse tranquille. Disons que c'est particulièrement terrible quand vous avez entre 20 et 30 ans, que vous êtes littéralement dans la force de l'âge. C'est terrible parce que vous avez des problèmes d'impuissance, mais le désir est pas complètement mort, quoi. On se contente de peu, on est un peu comme un prisonnier. Pour un prisonnier, tout revêt une extrême importance. Bon, moi, j'ai de temps en temps des pigeons ou des moineaux qui viennent se poser sur la margelle de ma fenêtre. Eh ben, si vous voulez, sur un plan décalé, c'est un peu la même chose en matière sexuelle. Vous vous contentez d'une l'onde de choc que la relation va déclencher, vous la gardez plus longtemps en vous. Vous voyez, vous vivez un peu au ralenti. Mais c'est pas totalement impossible. J'aurais été malade il y a 50 ans ou du temps d'Antonin Artaud, je préfère même pas imaginer. Maintenant, il y a des cas d'exception, d'arrangements possibles. Enfin, c'est un problème, ça, je vous cacherai pas qu'il y a un problème d'impuissance chez beaucoup, quoi. J'ai 40 ans un peu passé. Alors de toute façon, il y a une sorte de ralentissement. Je ne suis plus comme un cheval fou comme quand j'avais 20 ans. Alors c'est moins douloureux. Vous voyez ? Il arrive même que ça prenne forme, vraiment, que j'aille jusqu'au bout. Que des femmes soient suffisamment généreuses pour ne pas me poser trop de questions et pour me prendre comme je suis. Je crois que je ne peux pas décemment en demander plus. Les endives brisées, j'aime pas. Ou même les endives. Si, fraîches et en salade, ça va encore.
On peut faire une petite salade d'endives en entrée.
Voilà, ok. Alors voilà, c'est la psychothérapie. C'est la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire des endives. Et ben voilà, et alors le psy, qui s'appelle donc le psy mobile, Guy le psy mobile, et Rémi vont au marché, et puis ils reviennent du marché, et puis ils épluchent, et puis ils font cuire, et puis on met la table, et puis on déjeune, et puis voilà, et petit à petit, eh bien ce genre de choses a probablement contribuer à sortir peut-être un peu Rémi de sa souffrance, tout simplement, au point que bon, la vie est à peu près, même si évidemment il reste ce malade mental comme défini par Freud, c'est-à-dire celui qui ne peut ni travailler ni aimer. Et Rémi a répondu à ces deux questions. Alors, le point de vue maintenant du psy Guy.
La première fois que j'ai rencontré Rémi déambulait assez rapidement, assez anxieux dans l'appartement. À l'époque, il était vêtu de kaki, un petit peu militaire, avec une grande barbe. Et il avait des tics, il était bourré de tics, de ce qu'on appelle dyskinésie, croisant les jambes, décroisant, se levant, s'asseyant, etc. Complètement parasité par des effets secondaires, des neuroleptiques, des psychotropes que l'on donne pour des patients ayant des pathologies lourdes. C'est ma première rencontre avec Rémi. À l'époque, il était dans un hôpital de jour, il était suivi à Sainte-Anne, avec des activités comme balayer la cour pour se détendre un petit peu, ou jouer au Scrabble, jouer aux cartes. Voilà ce qu'on proposait aux patients psychotiques. Sa maman était appartenait à un groupe d'entraide et elle a entendu parler du travail que je faisais, c'est-à-dire du psy qui se déplace à domicile, le psy mobile qui vient à la maison et qui essaye de rencontrer l'entourage. Alors, je rencontre quasiment tous les membres de la famille, vraiment les parents, mais les frères et sœurs, pour moi, ce sont les témoins aussi du patient. Alors après, mon souci, c'est de faire sortir le patient de ce milieu et de trouver des relais. Hein. Alors je vais faire des bilans psychologiques avec l'appui de psychologues cliniciens pour donner un éclairage particulier sur la pathologie de ce patient. Puis je demande à ce qu'ils aient aussi un psychiatre avec un traitement médicamenteux. Et puis ensuite, outillé de tous ces équipements, je dirais, j'essaye de trouver des activités.
Alors justement, avec Rémi, alors quelles sont ces activités qui font sens ?
Ben, c'est la cuisine. On met en place, donc ça va être une fois par semaine, un menu. Et donc là, mon travail, précisément, c'est de réinjecter quelque chose de l'ordre du vivant pour redonner du plaisir, retrouver des plaisirs, retrouver du sens aussi à la vie, et puis se tourner vers l'extérieur. Quoi. C'est, sont des choses extrêmement importantes. Quoi.
Alors évidemment, faudrait pas croire que ça se passe toujours aussi joliment et aussi facilement. Hein, il suffirait de préparer des endives et puis hop, la folie s'envolerait. Non, c'est pas si facile. La souffrance dure, persiste, mais il y a un certain allègement et surtout le respect. Le respect infini, tout simplement. Je crois que c'est tout simplement avec un mot comme ça qu'il faut conclure.
It is never too late to live a happy childhood. Souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Voilà. Et c'est vrai. L'important, c'est que vous vous donniez le droit de vivre. Si vous avez beaucoup de problèmes, ou plus de problèmes que vos contemporains, vous pouvez vous bloquer ou faire violence et vous ne vous autorisez pas à vivre. Parce que c'est ça aussi la maladie mentale. Vous dites, moi je n'existe pas. Donc je vis pas, je fais grève. Je me mets en grève de la vie. Et puis vous pouvez quand même décider malgré tout de vous lancer. Et à ce moment-là vous dites ça. Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. C'est vrai ça. Enfin, pour moi c'était d'une clarté lumineuse. Vous pouvez le dire avec Edith Piaf, je ne regrette rien. C'est un facteur d'angoisse extrême de réaliser qu'on est passé à côté de la vie. Si on n'est pas un peu fou, on ne fait rien. Seigneur, envoie-nous des fous. Il m'est arrivé de me prendre pour Arthur Londres, pour Buenaventura Durruti ou Machno, quelquefois. J'étais complètement parti, complètement dissocié. J'ai vu Sotsky dans sa chanson « L'ornière ». J'étais dans mon ornière, au fond de mon trou, et ça se passait pas si mal. J'étais en train de crever, littéralement, mais enfin, c'était dans l'ordre des choses. Tous y finissent par crever dans ces lieux-là.
It's never too late to live a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Super, merci Rémi, merci Guy. C'était un reportage de Claire Auter. Technique aujourd'hui, Christian Buton et Sébastien Royer. Assistante Anne de Jaffery, le répondeur c'est Christophe Humbert. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Assistant réalisation Coyenne Guyenne. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Là-bas, si j'y suis, dispose d'un mail, figurez-vous, daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis, tiens, je vois une chose intéressante dans l'émission qui suit de Pierre Veil, Résonance, il reçoit aujourd'hui Tariq Ramadan, réclame.